Salut Marc, salut les Smart, salut peuple de catch-up. Bienvenue sur votre podcast qui respire, qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau et du slip. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team catch-up tous les shows de la WWE. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on se retrouve pour reviewer le Monday Night Raw, le 1460e Monday Night Raw, toujours à Tampa, Floride, USA, au WWE Thunderdome. Au commentaire, Adnan Virk, Byron Saxton et Corey Graves. Vous m'avez peut-être reconnu, je suis votre dinosaure masqué, que dis-je ? Je suis votre Luchasaurus des podcasts. Et pour m'accompagner, pour analyser, pour encenser ou pour mettre en PLS ce Monday Night Raw, rien de tel que l'inusable, que l'indécrottable, que l'inaltérable. Papy, salut papy !
Bonjour les petits enfants, bonjour tonton, comment ça va ?
Salut mon papy, comment vas-tu ?
Mais bien, et toi, c'est à toi qu'il faut que je demande, parce que j'ai écouté un podcast récemment et j'ai entendu que tu t'es fait botter le cul par Jean Brassard.
J'ai entendu ça également, pas plus de catch-up. Si vous avez été écouté et si vous ne l'avez pas encore fait, il est temps d'y aller dès maintenant, car c'est en ligne. Jean Brassard était l'invité exceptionnel de catch-up, l'invité de notre ami Ringside pour la 10e édition du You Talk Too Much. Et effectivement, Jean Brassard, c'est permis de me bâcher, c'est permis de m'en mettre plein la tronche. Je suis habillé pour l'hiver. Merci Ringside, merci Jeannot.
Merci Jeannot. Moi Jeannot, je ne suis pas du tout content de ce que tu as fait. Je suis team tonton, je soutiens tonton. Jeannot, fais gaffe, ne recommence pas ça, sinon tu vas avoir affaire à moi.
Ah, merci mon tag team partner. Ça fait plaisir d'avoir un peu de soutien dans cette équipe.
Ben ouais, non mais... Moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est qu'en plus, il a dit qu'il soutenait Ricochet, quoi, Jean Brassard. Alors là, ça m'a vraiment fait sortir de mes gonds. Là, j'en pouvais plus.
Ah, bah moi, j'avoue que c'est le seul moment de l'interview qui m'a fait plaisir.
C'était
mon seul kiff, quoi. Bon, il a quand même dit un peu de mal sur ses promos et tout ça, mais il a bien insisté sur le fait qu'il trouvait que c'était un athlète exceptionnel. Et ça, ça m'a ravi. Alors, bah, mon papy, avant d'attaquer ce 1460e Monday Night, ça doit déjà être en ligne à l'heure où nous parlons, mais nos amis Magic Zygote et Raphaël Hier se sont chargés d'analyser avec talent le WrestleMania Backlash. On va en profiter, hein, nous, vite fait, là, pour donner un peu notre avis aussi, parce que finalement, on est chez nous. Et qu'est-ce que tu as pensé alors de ce Backlash de dimanche là?
On est chez nous, on est chez nous. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, j'espère que mes collègues ont cité mon avis. Mais moi, globalement, sur le coup, quand ça a démarré, j'ai eu un petit coup de proie en me disant ça y est, on refait un pay-per-view, mais dans le Thunderdome. Et là, ça m'a coupé directement un petit peu l'envie. Après, les matchs ont été plutôt sympas à suivre. Globalement, j'ai vraiment aucun match que je peux jeter. Même le match des zombies, à la limite, moi j'ai pris ça à la rigolade, donc je n'ai pas été choqué plus que ça. J'ai dit mon flop à Raphaël et Zygote, mais je vais le changer. En fait, il y a un truc qui m'a vraiment déplu dans ce pay-per-view. C'est le finish des filles, là, le triple threat avec Charlotte qui fait un big boot et qui disparaît. Ça, par contre, j'ai trouvé ça complètement débile. Mais sinon, pour le reste, plutôt sympa. L'ambiance m'a... Ouais, j'ai vraiment eu du mal, voilà. Ça, c'est la première fois que ça me faisait ça depuis très longtemps. Le Thunderdome, je m'y étais habitué, mais WrestleMania m'avait un peu déhabitué, on va dire. Mais sinon, bon, les résultats après sont assez logiques, mais voilà, quoi. C'était un bon moment, mais vivement, vivement le retour de la foule.
T'aurais mis quoi comme note?
Je crois que j'avais mis 3,25 du coup sur ces pay-per-view.
Ah, ce qui est tout de même une bonne note quand même.
Oui, parce que les matchs étaient vraiment de qualité. J'ai eu le sentiment d'assister à un bon show, mais j'étais pas enflammé, tu vois, j'avais pas le « Oh putain, c'est le méga show, il y a des super histoires », enfin tu vois, je me suis pas levé de mon canapé, voilà.
D'accord. Et bah écoute, me concernant...
Toi, ça donne quoi ?
Moi, ça donne quoi ? Bah écoute, c'est plutôt positif, j'ai plutôt bien aimé ce pay-per-view. Moi, j'aurais mis une note de 3,5 avec un top pour le main event que j'ai vraiment adoré. Même si l'arrivée de Seth Rollins, c'était relativement prévisible... Mais j'ai trouvé que c'était plutôt bien foutu et j'ai trouvé vraiment le combat extraordinaire entre Cesaro et Roman Reigns. Ça a duré quasiment 30 minutes, je crois. Et vraiment, je ne m'attendais pas à un match aussi long en plus. Mais vraiment, Cesaro a fait plus que se défendre. Il a presque réussi à me faire croire par moment que peut-être il allait décrocher la timbale. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Et effectivement, moi aussi, j'aurais donné mon flop au triple threat Ripley, Charlotte, Asuka, entre autres, avec, ouais, avec un finish assez dégueulasse. Mais j'ai trouvé que le finish Bianca versus Bayley était assez dégueulasse aussi. Je sais pas, j'ai trouvé que les deux finishes des combats féminins en fait étaient très mauvais. Et alors pour les zombies, je vais peut-être étonner la jeunesse qui écoute le catch-up, mais moi j'ai beaucoup aimé les zombies. En plus, si tu veux, pour moi c'était pas déconnant parce que le pay-per-view commence avec une grosse promo avec Batista pour mettre en avant son film Army of the Dead qui allait sortir sur Netflix et compagnie. Donc finalement on était dans le truc. Il y avait beaucoup d'incrustations liées au film. Des moments what the fuck comme ça à la WWE, bah, on en a depuis 50 ans, quoi, enfin depuis 40 ans. Et finalement, bah, tu vois, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Il n'y a qu'un truc imaginé dans cette histoire de zombies, c'est le principe que bah, des zombies, normalement, en tout cas, c'est comme ça que je l'imagine, ça fout le bordel un peu partout et ça ne se met pas bien sagement autour d'un ring en attendant que ça se passe, si tu vois ce que je veux dire. Et c'est le seul truc qui m'a un petit peu fait tiquer, mais sinon j'ai trouvé ça très bien. Alors on peut signaler dans les infos, parce que c'est raccordé à ce Raw, qu'apparemment le Miz, pour la première fois de sa carrière, s'est blessé assez gravement.
Ligament, c'est ça?
Ouais, apparemment ça serait les ligaments croisés antérieurs.
Ah, bah ça.
Et sur une sur suite à un, suite à un mouvement, une souplesse de Damian Priest. Et en fait, bah, Damian Priest, un peu à l'image de ce qui s'est passé entre Carrillo et Sheamus, Damian Priest est malencontreusement retombé sur le genou du Miz. Et apparemment, ça a l'air vraiment sérieux, quoi. Ça n'a pas l'air d'être un work. Alors avec la WWE, on ne sait jamais. Ça se trouve, la semaine prochaine, ils vont être capables de nous sortir le Miz en zombie. Mais là, quand même, tout ce qui est annoncé, ça a l'air quand même d'être assez sérieux. Et j'ai l'impression qu'il s'est vraiment fait mal, notre ami Mizanin, qui est
Une petite
bien.
hyperextension. Aïe, aïe.
Ouais. Donc on lui souhaite un bon rétablissement. Et puis bah c'est vrai que bah pour le coup c'est la première grosse blessure de sa carrière au Miz. Donc écoute, on lui souhaite le meilleur pour la suite et il va nous revenir en pleine forme. Mais en tout cas, ce soir, je vous l'annonce, il n'est pas là, il n'est pas présent. En tout cas, il y en a un qui est pas blessé et qui est en pleine forme et qui va ouvrir ce Monday Night Raw. C'est le champion, c'est le WWE Champion. Bobby Lashley qui est sur le ring pour célébrer sa défense de titre. Alors MVP il est très sympa hein, puisqu'il lui a ramené une meute de femmes plus jolies les unes que les autres pour faire la fête avec eux hein, tout simplement. Hein. Donc le champ nous explique que c'est un honneur d'avoir remporté son match de dimanche, que sa performance fut herculéenne et c'est pas faux. On n'en a pas trop parlé dans notre début d'analyse à Backlash, mais c'est vrai que le match là, entre les trois, ça a été quelque chose. J'ai en souvenir en particulier l'espèce de cannonball double clothesline de la en sautant par-dessus les cordes de la part de Braun Strowman, qui pour un gabarit pareil est quand même notable et qui c'était extraordinaire même quasiment. Et d'ailleurs, il est annoncé aussi dans les reports que Braun Strowman se serait blessé quoi. Alors là, est-ce que c'est un work ou pas? Ça, par contre, on peut peut-être un peu plus en discuter parce qu'effectivement, ça peut tout facilement être un work cette affaire. Et du coup, le Bobby Lashley, bah, il nous explique tout simplement qu'il a battu les deux membres les plus puissants du roster et il a certainement pas tort cet homme. Du coup, Braun Strowman, il le signale d'ailleurs lui-même, Bobby Lashley, hein, puisqu'il dit que Braun Strowman a les côtes cassées et que Drew McIntyre va même plus être en mesure de quitter son lit, carrément. Et lui, il a été envoyé à travers un écran, mais il est revenu pour conserver le titre. Il a fait tout ça en étant blessé. MVP lui demande si, bah voilà, si un jour cette Lashley era, elle va finir. Évidemment, je sais plus, le champion lui dit, bah non, jamais, quoi. MVP, il en profite pour ajouter que le WWE. Universe est chanceux de pouvoir vivre une époque pareille. Ce soir, c'est un soir de célébration. Ils sont pas censés travailler, mais finalement, ils ont décidé d'organiser un open challenge à qui voudra. Et le défi va être relevé immédiatement par qui? Par le bel homme, le Drew McIntyre, l'Écossais. Il est là et il rappelle à tout le monde qu'il n'a pas subi le pin à WrestleMania Backlash, puisque c'est Braun Strowman qui l'aura pris. Lashley, il se marre, hein, il se fout pas mal de sa gueule. MVP, lui, par contre, de l'autre côté, il trouve pas ça très drôle, ça l'amuse pas beaucoup, et il va préciser que l'Open Challenge, il est pour tout le monde, excepté Strowman et McIntyre. Alors, ne nous demandez pas de quel pouvoir MVP sort ça et qui peut gérer le booking à sa manière. Mais bon, c'est le patron du Hurt Business. Donc, finalement, il fait un peu ce qu'il veut. Lashley, il va être quand même un coup de salopard puisqu'il va essayer de porter un coup bas sur l'Écossais qui va le voir quand même arriver. Notre bel homme va commencer à porter des coups au champion sous les hurlements effarouchés des cinq dames présentes. Avant que finalement MVP décide de retenir Lashley et de ne pas aller au combat frontal avec le psychopathe écossais. Alors, mon papy, cette ouverture de show, cet opener de Monday Night Raw avec le champion, avec le bel homme qui finalement n'est pas resté au lit, est-ce que toi, ça t'a justement fait sortir de ton lit?
Ah oui, ça me fait bondir cet opener là avec ces femmes effarouchées, pourtant pas farouches, qui étaient là tout autour du Bobby, qui manifestement avait passé une bonne soirée. C'est bien parce que ça nous fait un peu le fil rouge de la soirée, d'avoir l'open challenge de Bobby qui va être sympa. Et puis bah ça confirme que ce qu'on dit semaine après semaine, c'est que bah Drew McIntyre ne décolle pas du main event de Raw. C'est la tête d'affiche de Raw et ça fait plus d'un an que c'est comme ça. Et puis il ne lâche pas sa place.
Alors, il lâche rien, j'en suis bien content, hein, de toute manière. Hein. Je ne vois pas pourquoi Drew McIntyre, de toute manière, serait laissé sur le bord de la route, alors que le mec tient quand même la baraque depuis, comme tu le dis, depuis largement plus d'un an même. Et moi, je suis bien, bien content. Alors, je vois qu'il commence à y avoir un peu de lassitude sur les réseaux de la part de certains. Je vous dis à tous, vous vous trompez! Drew McIntyre, il doit rester en haut de l'affiche. C'est certainement pour moi en tout cas, l'un des plus beaux top babyface qu'il y ait eu à la WWE depuis très longtemps, qui continue de toute manière à avoir les faveurs du public quand même. Et je n'aspire qu'à une seule chose, qu'il aille au moins jusqu'à SummerSlam pour pouvoir retrouver du public, même s'il commence à y avoir des bruits qui bruissent pour nous dire que peut-être au Money in the Bank, la WWE envisagerait de faire revenir du public, ce qui serait quand même une sacrée bonne nouvelle pour le MITB, qui est quand même un des pay-per-view majeurs. On va dire après le Big Four, c'est le cinquième pay-per-view de l'année à la WWE, papy, quand même.
Ouais, bah je suis d'accord. C'est un truc vraiment identifié. Il y a le Elimination Chamber aussi que je trouve qui est vraiment un pay-per-view très bien identifié et très sympa à suivre. Mais le Money in the Bank, c'est vraiment particulier. D'ailleurs, parce que c'est pas vraiment une info, mais ça expliquerait peut-être dans ce cas-là pourquoi ils ont avancé le Hell in a Cell à la place de Money in the Bank qui devait avoir lieu en juin à l'origine. Donc
Ouais.
c'est peut-être pour ça qu'il se décale un petit peu pour récupérer le public, ça serait pas bête. Parce que pour le coup, Hell in a Cell sans public, ça peut passer parce que t'es tellement dans la cage que finalement je vois le dernier le Hell in a Cell, même sans public, il était dantesque quoi. Donc ils peuvent réussir à faire quelque chose même sans public.
Ouais, c'est une des infos de la soirée. La WWE a décidé, enfin en l'occurrence Vince McMahon a décidé de réorganiser un peu les pay-per-view. Il l'a dit lui, il en parle lui-même sur Twitter, hein, voilà, il considère qu'il faut briser un peu la monotonie des pay-per-view et que c'est pour ça qu'il a été décidé d'avancer Hell in a Cell en juin et de placer Money in the Bank en juillet. Je pense que c'est une grosse raison marketing aussi parce que l'été c'est certainement plus porteur et d'avoir deux énormes pay-per-view comme Money in the Bank et SummerSlam en juillet et août, ça doit certainement être best for business.
Bah c'est bien pour nous en tout cas, parce que là on va avoir un été de folie.
Ah ouais, je confirme. Alors j'ai pas les dates, malheureusement, peuple de catch-up, s'il y a des fact-checkers fous, n'hésitez pas à nous donner les dates exactes, mais je n'ai pas les dates exactes concernant. Alors je crois que Hell in a Cell, ça va se passer aux alentours du 20 juin, mais j'ai pas la date pour le Money in the Bank, mais bon, ça arrivera sans tarder. Allez, on retourne au catch, on retourne à Monday Night Raw. On a le retour de la Tag Team Division dans un match 1 contre 1, puisqu'on a le champion accompagné avec son partenaire AJ Styles, qui va affronter Elias et Jackson Ryker dans un match assez long, puisque ça va durer quasiment 12 minutes. Match finalement assez équilibré. J'ai même presque été étonné de voir Elias être autant mis en avant. Alors, Styles va quand même porter tout son moveset habituel, va avoir plusieurs near falls. Elias va réussir à contrer le Styles Clash et va lui aussi obtenir un near fall à la suite de ça. Ryker va finalement intervenir pour s'en prendre à Styles d'abord ringside, puis ça va revenir dans le ring. Mais finalement, Ryker va aller jusqu'au bout de son idée, mais finalement, son idée, elle n'est pas si bonne que ça, parce qu'il va tout simplement causer la disqualification, alors que la moitié des champions par équipe se préparaient pour le phénoménal forearm. Elias va ensuite envoyer Styles contre les escaliers métalliques à l'extérieur du ring, avant finalement de fuir en voyant arriver les heels. Alors, papy, moi j'ai une question quand même qui me brûle les lèvres, c'est Elias et Jackson Ryker, à la base, ils étaient heels. Et est-ce qu'on a assisté à un face turn lundi soir?
Bah alors, je l'aurais dit oui, mais c'est marrant, j'aurais pas dit les mêmes personnages que toi. Parce que
Ah ouais?
moi, j'ai l'impression que c'est plutôt AJ Styles et Omos qui. Enfin, après, c'est peut-être une perception faussée parce que peut-être un souhait de ma part, mais j'ai l'impression que c'est plus eux qui ont joué la partition face avec justement AJ Styles qui a beaucoup été dominé par Elias. Et donc, je me dis, s'il est autant dominé, c'est peut-être justement parce qu'il est en train de passer du côté lumineux de la force. Et donc, du coup, bah, on le fait en underdog et Omos pour faire le sauvetage, en fait. En tout cas, je l'ai senti comme ça. Alors, on verra ce que ça donnera. Mais effectivement, il y a quelque chose qui se trame. Et Elias revient en très grande forme, je trouve. Depuis quelques temps, il y a eu une feud contre Hardy, ce que j'ai trouvé très mauvaise. Notamment parce qu'il scellait très mal les Twist of Fate. Mais là, par contre, depuis quelques temps, je trouve vraiment plutôt en bonne forme. En plus, la face à AJ Styles qui ferait bien catcher n'importe qui, même Gulak. C'était cadeau. C'est difficile de faire un mauvais match, mais voilà, je trouve plutôt bien Elias. Et je pense, moi, perso, que c'est AJ Styles et Omos qui vont peut-être basculer côté lumineux de la force.
C'est pas impossible, effectivement. Écoute, bizarrement, j'ai eu du mal à déterminer l'alignement dans ce match. Et que ce soit au cours du match ou à la fin, finalement, j'étais un petit peu perdu. Je me suis dit, mais merde, qui c'est le face, qui c'est le heel dans cette histoire? Et tout ça se tient. Oui, Homos et Styles pourraient repasser du côté lumineux sans trop de problèmes de toute façon. Parce que Styles est quand même un catcheur très aimé, et la nouveauté de Homos fait que ça serait assez facile de le passer en face sans trop se casser le cul finalement. Donc à voir, et comme tu le dis, ouais, on peut constater effectivement qu'Elias semble en pleine forme. Il n'a jamais eu autant de temps d'antenne depuis un bail là, et là en ce moment il est là tous les lundis. Le seul truc qui peut-être m'emballe moyennement, c'est que bah, j'ai quand même l'impression qu'Elias et Ryker se dirigent tout doucement mais sûrement dans une position de number one contender.
Peut-être, ouais, peut-être, et pourquoi pas, vu que les autres participants de la Tag Team Division n'ont pas l'air de se manifester plus que ça. Enfin, si, on en parlera de notre équipe qui, elle, par contre, va peut-être décoller, mais qui, je pense, va faire une étape intermédiaire avant. Mais ça peut être des bons challengers de transition, et en plus, je les trouve super in shape, au-delà d'être pas mal dans le ring. Et là, c'est la première fois que je le vois aussi fit, j'ai l'impression. Il est vraiment que muscle, tout muscle dehors.
Alors, c'est une très bonne transition puisqu'on parle de Challenger pour Homos et Styles, on va retrouver en coulisses des segments liés à la Tag Team Division puisqu'on a Riddle qui est en coulisses avec le New Day et qui, comme d'habitude, est en train de taper sa déconne. Il nous explique qu'il a perdu son serpent, mais voilà, justement, le serpent arrive, la vipère, c'est l'apparition de Randy Orton qui demande ce que le New Day fout là. Riddle, il rappelle que la semaine dernière, les quatre avaient passé un bon moment avant que quelqu'un vienne briser l'esprit de camaraderie. Et Riddle, du coup, demande à Randy Orton de s'excuser auprès du New Day. Orton, il dit qu'il va y réfléchir, qu'il ne sait pas trop. Kofi Kingston, là-dessus, prend la parole pour dire qu'il connaît Orton depuis plus longtemps que quiconque dans le roster. Et il sait qu'à un moment ou un autre, ça va se finir par un RKO porté à Riddle. Et là-dessus, Kingston, bah, il va tout simplement challenger Orton pour un match dans la continuité de la soirée. Et la Viper, bien évidemment, va accepter ça avec son enthousiasme habituel. Avec une, y a une tellement longue histoire entre la Vipère et entre Kofi qu'on a l'impression que ça n'arrêtera jamais, que jusqu'à l'âge de 60 ans, ils continueront à feuder l'un contre l'autre, ces deux-là, non?
Ah ouais, et puis je moi personnellement je trouve que ça marche bien en plus. Il suffit qu'ils se jettent un regard et tu te dis ah bah ça y est, ils vont se remettre sur la gueule et c'est des rivalités comme ça, tu sais qu'elles se relanceront toujours au moindre regard, c'est un peu comme le Miz et Daniel Bryan, tu vois. Il suffit que tu les laisses 2 secondes ensemble et directement ils te bouclent un match sans aucun souci et tu y crois en fait, parce que c'est deux mecs qui ont un passif vraiment important ensemble. Alors que quand même pendant des années ils s'étaient plus trop croisés, Orton et Kofi, mais quand ça a redémarré du feu de Dieu, donc voilà. Et puis le Riddle là qui essayait de faire les entremetteurs en mentant au New Day et à Randy Orton pour les forcer à se croiser, c'était plutôt bien trouvé. L'alchimie marche bien entre ces quatre-là, là je trouve.
Ouais, c'était pas mal. Allez, on reste en coulisses, puisque de toute façon, on va revenir un peu plus tard sur ces quatre-là. On reste en coulisses avec le playground d'Alexa Bliss, toujours sur sa balançoire, toujours avec sa poupée Lily. Elle est rejointe par les nouvelles championnes par équipe depuis, entre Natalia, depuis SmackDown, entre Natalia et Tamina. Natalia est sur une des balançoires, alors que Tamina est un peu en arrière-plan. Et Tamina, clairement, elle a l'air de se demander vraiment ce qu'elle fait là, quoi. Et Natalia, elle va remercier Bliss en lui disant que c'était pas une tâche facile, mais qu'elles ont réussi, qu'elles l'ont fait. Tamina, du coup, lui dit, bon, bah ok, c'est bon, on peut y aller maintenant. Bliss, elle dit, ah non, mais attendez, attendez, j'ai pas encore posé la question qu'il faut. Et Lily, la fameuse poupée, veut savoir quelle est leur couleur préférée. Là-dessus, Natalia répond le rose. On ne s'attendait pas à autre chose. Et Bliss, elle leur demande si elles ont pris du plaisir à se défouler sur Reginald la dernière fois. Tamina, elle dit que oui, il serait temps de se barrer, quoi. Et c'est ainsi qu'après le rire sardonique d'Alexa Bliss, ce segment se termine. Sauf que, juste pour clôturer ça, Alexa Bliss tease plus ou moins une arrivée dans la Tag Team Division féminine, mon papy.
Oui, elle tournait déjà autour de cette division, j'ai l'impression, la semaine dernière, vu qu'on l'avait vu tourner autour du match qui avait six filles dedans, je crois, de mémoire. Ça continue comme ça. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire là. Moi, ça fait un bout de temps que je sature avec les passages coulisses d'Alexa Bliss, donc voilà, rien de plus à dire.
Ouais, j'ai pas grand-chose à ajouter non plus. Je vais peut-être pas enthousiasmer des masses le studio là, parce que ouais, moi non plus, je me demandais presque d'ailleurs ce que Natamina foutait là. Alors c'était certainement pour nous vendre l'arrivée dans la Tag Team Division féminine d'Alexa Bliss. Je pense que ça a été un peu raté et en plus un peu à l'image de Tamina. Finalement, j'étais aussi dubitatif que Tamina, je crois, sur cette affaire. Parce que Tamina avait vraiment l'impression, enfin donnait vraiment l'impression que ouais, elle savait pas ce qu'elle foutait là et qu'elle y trouvait pas grand intérêt. Et je crois que c'est un peu à l'image de tout le monde en ce moment. Allez, on quitte les femmes. On va retrouver Angel Garza pour un match qui va affronter Drew Gulak. Alors, c'est pas la première fois, hein. Rappelons-nous la rose mise dans le cucu à notre ami Goulak. Eh ben écoutez, on va avoir quasiment une redite, puisqu'on va avoir un match encore totalement expéditif qui va durer 2 minutes 10. Il va battre toujours avec son finisher dégueulasse, puisque mon bon papy Angel Garza n'écoute pas catch-up. Et donc, il continue à pratiquer cette espèce de wing clipper totalement horrible. Alors, heureusement, dans son moveset, il met un beau backbreaker juste avant. Pour un peu nous montrer qu'il sait faire d'autres prises. Mais ouais, ça continue avec ce finisher horrible. Et finalement, il va aller chercher son bouquet de fleurs. Alors que le commentateur, d'ailleurs, Corey Graves, va s'excuser déjà par avance à l'antenne de ce qui va se passer. Et Gaza va retirer les têtes des roses et va les mettre tout simplement dans la bouche de Goulak. Voilà. On s'éclate hein, dans la low-card à Raw, hein.
Ouais, bah alors moi j'espère juste que c'est pas la même rose qu'il avait utilisée la fois dernière pour le mettre dans le slip de Gulak. Sinon c'est un peu dégueulasse. Mais bon, à part. Ouais, le finisher de Garza est toujours dégueulasse. J'ai trouvé que le match était particulièrement mauvais en plus. Je sais pas, je les ai pas senti des masses motivées. Et surtout Gulak, tout à l'heure je chambrais un peu, mais en plutôt d'habitude plutôt un bon catcheur. Mais alors là, sincèrement, j'avais l'impression qu'elle avait absolument rien à foutre d'être là. Et puis, bah, du coup, comme en plus la rivalité fait pas rêver non plus, bah, c'est son manque d'intérêt qui le faisait jaillir, bah, c'était communicatif. Donc voilà, je sais pas où ils veulent en venir. J'espère qu'ils ont une idée derrière la tête autre chose qu'enchaîner les segments comme ça, parce que c'est pas intéressant. Voilà.
J'ai bien peur
Disons-le.
que. Ouais, j'ai bien peur qu'ils veulent en venir nulle part, je t'avouerai, quoi. Là, on est vraiment dans un segment de low card du lundi soir. Je pense qu'il y a pas mal de choses à changer. Je suis un peu triste pour Gulak, moi. Et je déteste pas Angel Garza, voilà, mais je piche pas trop où va ce personnage-là. Voilà, et puis je continue à insister, mais ça, c'est mes troubles obsessionnels compulsifs, hein. Vraiment, 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 ce finisher, c'est pas possible, quoi. Je ne comprends pas que personne ne lui ait dit non, mais attends, Angel, là, il faut qu'on change ça, là, parce que ça va pas, en fait, ça a aucun effet visuel, personne n'y croit. Alors là, on parle de fake dans le catch, alors voilà un move que je trouve, mais alors totalement fake. Jamais tu me fais avaler, tu fais un tombé sur un mec après l'avoir fait tomber sur son cul, quoi. Moi, je n'arrive pas à y croire, là. Ma suspension consentie d'incrédulité ne marche pas avec ce finisher. Donc,
Je suis d'accord.
soit il change ça, soit il continue, et je pense que ça n'ira jamais très très loin, cette histoire.
Le seul truc que je pourrais croire éventuellement, c'est que mine de rien, il tombe sur le cul, mais il lui tient la nuque en même temps qu'il fait ça. Donc peut-être qu'il pourrait
Oui,
accentuer
oui, oui.
le geste en disant qu'en fait, en faisant ça, il lui pète la colonne ou enfin un truc comme ça. Enfin, genre, quoi, un truc qui est vraiment violent sur la nuque, genre peut-être assister sur la nuque avant pour le match. Effectivement, si tu racontes pas d'histoire autour de ça, bah, c'est un mec qui tombe sur son cul et qui après est KO. Donc, ça reste compliqué à vendre.
Moi, ce que je comprends pas, en fait, dans cette prise, c'est que pour moi, ça serait assez simple, finalement, de la transformer, cette prise. C'est qu'en fait, elle pourrait faire partie de son finisher sans l'être. C'est-à-dire qu'il pourrait placer son wing clipper, et au moment où le mec tombe sur le cul et un peu sonné, effectivement, comme tu dis, il le tient par la nuque, et ben, ça serait justement l'occasion, à ce moment-là, de terminer avec une soumission. C'est-à-dire que dans le mouvement, hop, le mec tombe sur le cul, et je ne sais pas, soit il se tourne, soit il se couche sur le mec et il lui place une soumission pour finir. Et ça aurait un effet visuel, je pense, beaucoup plus intéressant. Là, vraiment, cette prise, bah voilà, tu montres ça à quelqu'un qui n'aime pas trop le catch, et ben direct, il dit, oh, attends, mais c'est tout pourri ton truc là, c'est tout faux, quoi. Et la personne aurait raison.
Voilà, alors après, comme c'est un catcheur de deuxième génération, Garza, est-ce que c'est pas quelque chose qu'il a hérité de son paternel ou de son oncle ou je sais pas,
Ah, ça, je
là
sais
je vois
pas.
que je connais pas assez bien le son arbre généalogique.
Écoutez, j'essaierai de m'intéresser à ça prochainement pendant la semaine, et puis de vous donner la réponse pour la review de la semaine prochaine. Allez, on retourne en backstage avec le champion 24-7. Airtruth est là, comme d'habitude, aux fraises. Il pense que l'Open Challenge qu'a lancé MVP, c'est pour son titre. Alors, il y a l'intervieweur qui est là, le Kevin Patrick, quoi, qui lui dit non, 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 c'est pour le titre de Bobby Lashley, t'inquiète pas. Et pendant que ça discute, qui débarque? Notre ami japonais Akira Tozawa, qui va évidemment porter un roll-up victorieux pour prendre le titre. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le 24-7 à Monday Night Raw. Ça a été rapide. Et Airtruth, qui détient le titre pour la 51e fois, eh bien, vient de le lâcher à Akira Tozawa, qui le remporte lui pour la 9e fois. Nous sommes précis. Et voilà, bah écoute, papy, on a un nouveau champion 24-7.
Oui, nouveau champion de 4-7. Donc, Duke Tartouf l'a eu 51 fois. C'est-à-dire aussi qu'il a perdu 51 fois. Bon. Je pensais sincèrement que le fait qu'on ne voit plus les ceintures, c'est parce qu'ils essaient de la faire disparaître sans vraiment l'avouer. Mais non, non, elle reste là. J'avoue que quitte à ce qu'il perde la ceinture, autant que ce soit face à Tozawa qui me fait toujours un peu marrer par ses mimes ninja vraiment ridicules, quoi.
Ouais. En tout cas, c'est sûr qu'on n'avait pas vu le 24-7 depuis un bail sur les shows WWE. Bon, ils font un petit rappel, ça permet de faire un petit peu de comédie wrestling avec Airtruth. Et puis finalement, comme Akira Tozawa est exactement dans le même mood, et lui aussi est en train de se transformer en comédie wrestler. Donc je pense que cette rivalité, elle est loin d'être finie, et qu'on va encore se coltiner quelques roll-ups dans les semaines et mois à venir. Allez,
Eh oui.
chose promise, chose due. Le match entre Kofi Kingston et Randy Orton va commencer. Ils sont chacun accompagnés, l'un par Riddle, l'autre par Xavier Woods. On va avoir un match Alors qu'il ne sera pas tellement dans la lignée des Kofi Kingston, Randy Orton, puisque ça va durer que 5 minutes. Il nous avait habitués à beaucoup mieux quand même, ou en tout cas à beaucoup plus long. Kingston va quand même réussir à porter un peu tous ses moves, porter son dropkick, tenter un SOS qui va être contré. Orton va lui répondre avec un gros power slam habituel. Il va tenter de préparer un RKO, mais Woods va attirer son attention grâce à Francesca, grâce au trombone. Magique, ça c'est magique, hein, le trombone. Un coup de trombone et paf, l'adversaire de Kofi Kingston devient complètement perdu sur le ring. Kingston va en profiter pour porter. Je prends ma respiration.
Vas-y,
Roll
vas-y,
up.
vas-y.
Roll up. Là-dessus, Riddle derrière va essayer de séparer Orton du New Day qui veut se casser la gueule à tout le monde. Mais finalement, quand même, victoire de Kofi Kingston face au 14 fois champion du monde, Randy Orton. Est-ce que tout ça nous annonce une feud qui va durer sur quelques semaines pendant qu'on occupe Homos et AJ Styles, mon papy?
Ouais, et tu dis que Riddle sépare un peu tout le monde, il a fait plus que séparer parce
Oui,
qu'il repousse un
t'as
peu le New Day, hein, et...
raison. Oui. Oui, j'ai oublié effectivement de signaler la fin du segment, oui.
et donc du coup j'ai l'impression que ça va continuer entre eux et j'ai l'impression aussi que Riddle bah il est en train de choisir son camp là, il avait le choix entre rester fidèle à sa connerie et au New Day ou suivre un peu Tonton Randy. J'ai l'impression que Tonton Randy commence à avoir de l'influence sur lui. Et c'est vraiment pas pour me déplaire. Parce que là, pour le coup, Riddle, bon, je le trouvais toujours débile. À la limite, avec Orton qui faisait le clown blanc, ça passait à peu près. Mais je trouvais pas que c'était toujours cohérent avec son catch à Riddle. Là, par contre, un Riddle qui commencerait petit à petit à prendre un peu de violence auprès de Tonton Randy, là, par contre, là, tu vois, ça titille mon intérêt.
Oui, effectivement, ouais, parce que c'était important et j'ai oublié de le signaler. C'est vrai que Riddle, à la fin, a une interaction avec les New Day et lui qui s'est toujours montré comme un bon vieux pote de Kingston et de Woods, là, les repousse assez violemment et clairement, oui, il se met complètement du côté de Randy. Je pense que de toute façon, c'est totalement à son avantage et qu'il fait bien de faire ça. Et ça peut nous promettre des bons matchs. Des bons matchs tag team, là, du bon 4 à 4. Et ça peut être assez sympa, donc je suis assez client. De toute façon, je suis plutôt très bon client de cette team RK-Bro là. Je trouve que là, il y a un bon truc qui se passe. Je suis même quasiment étonné en fait de l'attitude de Randy Orton, qui je sens que en fait il s'éclate bien dans ce dans ce nouveau cette nouvelle storyline, on va dire, et qu'il a trouvé une espèce de rythme de croisière avec Riddle. Et je trouve que de semaine en semaine, ça s'améliore. Voilà, mon seul petit bémol, ça sera sur le match en lui-même. C'était vraiment 5 minutes que j'ai trouvé un petit peu bâclé. J'aurais pensé qu'on nous livrerait un truc un peu plus péchu. Donc c'est mon seul bémol, mais c'est vraiment, vraiment pas méchant, quoi. C'est vraiment, globalement, je suis quand même assez satisfait de ce qui se passe. Je continue à trouver que la Tag Team Division à Raw va de mieux en mieux semaine après semaine. Et ça me fait bien plaisir.
Bah là, tu as quatre grosses équipes là, qui se détachent
Ouais.
complètement. Avec,
Ah
euh, et là, il y a ces Rikers aussi qui reprennent du poil de la bête. C'est-à-dire que les Viking Raiders, qui
ouais. Eh
sont
oui.
pourtant une grosse équipe, sont totalement du coup oubliés. Et franchement, il manque pas en fait. Quand je vois ces quatre autres équipes, bah, je n'ai pas besoin d'avoir les Viking Raiders en plus. Pour le moment, ils retrouveront leur place plus tard. Mais du coup, tu vois, si Riddle et Orton passent côté obscur, bah, du coup, ça m'encouragera à penser que Styles et Homos passeraient du côté que lumineux de la force, tu vois.
Ouais, pourquoi pas, ouais. Allez, on retourne backstage, on parle de tag team, on y reste, sauf que cette fois, on retourne chez les filles. On a une petite interview avec Lana et Naomi qui d'ailleurs sont un peu dégoûtées en fait parce qu'elles se demandent comment ça se fait que Nia Jax et Shayna Baszler ont obtenu un rematch. Elles, à chaque fois qu'elles obtiennent un match de championnat, il y a toujours quelqu'un qui vient les interrompre. Il y a Dana Brooke et Mandy Rose qui arrivent ensuite pour savoir en fait, elles aussi, tout simplement, elles veulent une opportunité pour le titre. Là-dessus, Charlotte Flair s'amène aussi. On se dit, ah ben, y a toute la division féminine qui débarque. Parce qu'elle dit qu'elles ont toutes eu leur chance et qu'elles ont toutes gâché. Brooke se fout un peu de la gueule de Charlotte en lui disant que, bah ouais, comme à WrestleMania Backlash, en fait, toi aussi, t'as gâché un peu ta chance. Et Sonya Deville, qui est là avec Adam Pearce, leur fait savoir qu'après le match de championnat de ce soir, nous saurons qui seront les prochaines challengers. Flair nous dit ensuite à Adam Pearce qu'elle devrait avoir un rematch pour le titre de Rhea Ripley parce que c'est pas elle qui a reçu le pin lors du triple menace du pay-per-view. Là-dessus, on enchaîne avec le match, le WWE Women's Tag Team Championship. Natalia Tamina affronte Nia Jax et Shayna Baszler dans un match à nouveau extrêmement rapide puisque c'est un match qui va durer 3 minutes 15. Tamina, qui est quand même largement mis en avant dans l'équipe, va réussir à porter son gros super kick à Jax. Baszler va finalement rentrer en scène et c'est elle qui va quasiment faire tout le boulot par rapport à Nia et qui va quand même bien se défendre face aux deux nouvelles championnes. On va avoir Alexa Bliss qui va apparaître sur la rampe et qui va un peu nous confirmer finalement son intérêt pour la Tag Team Division féminine. Pendant ce temps, Baszler va porter un clutch à Tamina. Tout à coup, on ne sait pas, out of nowhere, des pyros à la Kane vont se déclencher, ce qui va faire chuter. C'est laquelle d'ailleurs qui tombe suite au pyro de Kane.
C'est Reginald qui tombe.
C'est Reginald. Mais... Ah, bah oui, en plus, c'est Reginald. J'avais oublié le Reginald. Ah, mais oui, c'est Reginald qui tombe. C'est Reginald qui est pris par les pyros à la Kane. Et finalement, Tamina va porter un bear hug à Baszler. Natalia va enchaîner avec une clothesline, puis son heart attack. Victoire de Natalia et Tamina qui confirment donc leur championship. Papy, branché par tout ça?
Partiellement. Alors déjà, Sonya Deville est une belle menteuse parce qu'elle annonce que suite au match tag team, on saura qui seront les prochaines challengeuses. Eh ben, que dalle, on n'a aucune info là-dessus. Ça, c'est un des points négatifs. Les équipes féminines là, qui parlaient avant le match, je m'en fous un peu aussi. Alexa Bliss, je suis toujours pas convaincu non plus parce que je suis content qu'elle se rapproche du ring, mais par contre, c'est pour faire mieux avec la poupée, c'est pas non plus passionnant. Reste que du coup, on a deux nouvelles championnes qui, pour le coup, me convainc un peu plus. J'espère qu'on aura d'autres équipes pour aller les chatouiller un peu et qu'on passe se récupérer Baszler et Nia Jax trop longtemps. J'ai pas cette impression parce que je me demande. Parce que mine de rien, Alexa s'intéresse aux ceintures tag team, mais elle s'intéresse surtout à Shayna Baszler, j'ai l'impression, parce que les deux fois où elle est intervenue, les deux fois, c'est Shayna Baszler qui a subi soit le pin, soit le coup, c'était le genou qui se dérobait la semaine d'avant. Donc est-ce que c'est pas juste au contraire qu'elle a un souci? Ça serait peut-être intéressant, du coup, un truc Bliss versus Baszler. Donc je reste. J'attends de voir. Il y a des pistes qui pourraient être intéressantes. C'est enrobé dans un gros truc de je m'en fous qui fait que pour l'instant je m'enflamme pas trop encore.
Ouais, ça a surtout permis en fait de confirmer et de conforter les championnes dans leur prise de titre. Moi j'espérais un petit peu, ou j'espère que ça va enterrer définitivement la team Baszler-Jax, que moi j'attends ce split avec impatience. Du coup, est-ce que effectivement Alexa Bliss va s'en prendre à Baszler? Alors que elle tease différents trucs, donc c'est un petit peu compliqué. On ne sait pas trop. Est-ce qu'elle tease Baszler parce qu'elle veut l'affronter, ou est-ce que parce que justement elle aimerait l'attirer dans ses griffes pour en faire sa partenaire. Tout ça, c'est un petit peu obscur pour l'instant. Bon, j'imagine bien que ça va se décanter d'ici quelques temps, mais c'est vrai que ça reste pour l'instant assez. Ouais, ça n'a pas un intérêt fou, quoi. C'est le problème dans tout ça, finalement, c'est pas tant pour moi ce qui s'est passé avec Jax, Baszler et compagnie, c'est plutôt Alexa Bliss, finalement. C'est plutôt ça, moi, qui me pose souci, quoi. J'ai un vrai souci avec ce qui se passe avec Alexa Bliss ces dernières semaines, enfin, en fait, depuis la disparition de notre ami The Fiend. Et, alors, The Fiend, on a eu quelques nouvelles. Enfin, on va pas dire The Fiend, on va dire Bray Wyatt. Puisque Bray Wyatt, apparemment, il serait le garçon tout simplement en dépression. Et il n'est pas blessé. Ce qui a été annoncé un petit peu partout, là. Et d'ailleurs, lui-même a fait des tweets un peu, pas énigmatiques, hein, mais il a expliqué, avec son vrai Twitter, hein, pas avec celui du Fiend, il a expliqué que voilà, que depuis la mort de Brody Lee, il n'arrivait pas à s'en remettre, que c'était très compliqué, qu'il n'était pas bien psychologiquement. Et apparemment, la WWE l'aurait renvoyé un peu dans ses pénates, hein, pour qu'il aille un peu s'occuper de ses enfants et de sa femme, et qu'il se ressource, parce que apparemment le garçon va pas bien dans sa tête. Mais bon, ça, on peut le comprendre, ça arrive à tous. La vie des humains n'est pas chose simple, et on peut comprendre que Brody qui faisait partie de ses meilleurs potes. C'était peut-être qu'il a effectivement du mal à gérer ça.
Bah, surtout que je pense qu'un mec comme Wyatt qui a tellement une sensibilité pour créer des personnages, ça doit aussi être. Bah, je sais pas comment dire ça, mais tu vois, c'est. Je serais pas étonné que lui-même soit quelqu'un déjà à la base ultra pas sensible, mais aussi ouais, peut-être sensible et peut-être
Sensible.
et qui du coup bah, le. Enfin, tu vois, là, quand on avait appris que il avait laissé une longue lettre en expliquant que bah voilà, il. Je ne sais plus comment il formule ça, mais c'était en gros c'était un peu les laissés pour compte qui s'étaient réunis avec la Wyatt Family, tout ça. Enfin, je pense qu'il y avait pas mal de. Enfin, certainement beaucoup, enfin, du vrai là-dedans. Et que ça a aussi traduit sa personnalité, qui est peut-être un peu quelqu'un justement qui, bah, qui est ultra à fleur de peau, puis que bah, du coup, possible que ça allait un peu chambouler cette affaire. Bah, c'est dommage parce que pour le coup, j'allais le dire avant que tu me dises ça. Mais bon, je le maintiens quand même. Bah, Alexa Bliss, ça fait quand même un sous Bray Wyatt hein, pour l'instant. Hein. Elle essaie de faire comme lui, mais ça n'a pas la même force que Wyatt, où tu sentais que tu avais ses tripes. Là, Alexa Bliss, franchement, je pense qu'elle fait ce qu'elle peut, hein, mais elle fait bien la comédie, tout ça. Mais Wyatt, ça venait de ses tripes ce qui sortait, tu vois. Et que là, tu as une actrice, si tu as envie de dire.
Après le mal-être de Bray Wyatt peut être compréhensible. J'imagine que effectivement ça doit pas être simple. Il s'est passé tellement d'événements. En plus, il était en plein processus créatif depuis plusieurs mois. En décembre, bam, fin décembre, en plus la mort brutale de Brody Lee. Donc je pense que dans sa tête, là, ça a peut-être été un peu trop. Et je pense qu'il a eu quelques neurones qui ont un peu sauté dans tous les sens et que du coup il a beaucoup de mal. Donc, mais j'ai l'impression que la WWE se comporte bien avec lui là-dessus, quoi. Là, tu vois, c'est au moins c'est une bonne surprise, je trouve. On est très souvent, alors pas forcément nous à Catch Up, mais beaucoup, beaucoup de gens sont quand même largement tendance à cracher très facilement sur la WWE et son produit, et sur l'attitude des fois en coulisses qu'il peut y avoir. Alors effectivement, il y a des choses qui sont vraies, qui sont. Voilà, on va parvenir sur le sac poubelle gate, hein, par exemple, hein, avec les gens virés à qui on envoie leurs affaires dans des sacs poubelles. Mais je pense que pour le coup, il y a un certain respect vis-à-vis de Bray Wyatt. Je pense que c'est un des workers sur qui il compte beaucoup. Le Fiend est quand même un personnage extraordinaire au sens littéral du terme. Et depuis l'Undertaker, finalement, on n'avait pas vu ce genre de gimmick. Et donc, je pense qu'il lui laisse du temps et j'ai envie de dire que c'est tout à leur honneur.
Ouais, et puis enfin, il y a mine de rien toujours une histoire. Alors même s'il y a eu quelques petits foirages qui peuvent, mais il y a toujours un esprit quand même assez famille dans la WWE. J'ai l'impression que quand il y a un mec qui est vraiment dans la daube, c'est, j'ai pas l'impression qu'il le laisse galérer. Genre il y a eu le cas avec les anciens alcooliques, tout ça. Il me semble qu'ils payaient leurs cures enfin, McMahon payait les cures des anciens alcooliques même quand ils bossaient plus. Enfin, il y a toujours des trucs comme ça qui se disaient aussi qu'ils laissaient pas tomber les gens quand ils étaient vraiment dans la dèche. On peut penser aussi à Sonya Deville qui a eu des soucis suite au mec qui était venu la harceler jusque dans sa maison. Bah, ils l'ont pas laissé tomber, ils l'ont laissé le temps pour se remettre, ils l'ont réembauché derrière. Enfin, je pense que quand ils ont beau, même s'ils ont, ils peuvent avoir foiré certains trucs, et c'est tout à fait logique de le dénoncer, je pense qu'ils ne laissent pas non plus les gens dans la merde. Quand ils ont vraiment quelqu'un qui a des soucis, ils tendent la main, tu vois. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai de l'extérieur.
Ouais, moi je le ressens aussi comme ça. Mais bon, écoute, de toute façon, moi je suis pas inquiet. Je pense que Wyatt reviendra à terme. Mais je pense que comme tout être humain, là, voilà, il accuse le coup. Il a certainement une espèce de backlash et un contre-coup. Et du coup, peut-être qu'il le paye maintenant, là. Et voilà, ça arrive. Allez, je vais essayer d'arrêter de faire des tentatives de psychologie de comptoir. Mais moi, en tout cas, je ne souhaite que son retour à Bray Wyatt. Et j'espère que dans sa tête, ça ira beaucoup mieux. Et puis qu'il recommencera sa créativité. Parce que c'est quand même un des catcheurs à la WWE que j'aime beaucoup pour ça. Depuis le début, depuis qu'il est là, depuis la NXT, etc. Je considère que pour moi, c'est un des meilleurs créatifs qui est dans le roster. Et on a besoin de lui pour animer nos lundis soirs.
Eh oui, ça nous changera de Najax qui tombe sur son cul.
Et voilà. Donc Bray Wyatt, si tu nous regardes, Catch Up est solidaire avec toi. Allez, on retourne au backstage. On va avoir une promo de qui ? Une promo de Ricky La Belle Vie, qui a eu une interaction en kick-off de WrestleMania Backlash avec Sheamus. Donc, il continue dans l'histoire. Il nous explique qu'il veut faire taire Sheamus une bonne fois pour toutes. Et il le taunte, puisqu'il porte le chapeau et le manteau qu'il a volé lors du kick-off de WrestleMania Backlash. Il va se moquer aussi de l'accent de l'Irlandais dans sa promo, quoi. Et derrière, on voit que Sheamus est furieux. Ça nous emmène sur un match entre Sheamus et Ricochet. Alors là, un match qui ne va pas être de 2 minutes 10, hein, un match qui va durer quasiment, je vais vous donner le timing exact, qui va durer 13 minutes 30. Donc pas un petit match, mais un bien gros match. Alors là, avec deux différences de style totale, hein, puisqu'on a d'un côté un high flyer absolu face à un brawler absolu, le gros bagarreur irlandais face à l'américain virevoltant, et du coup ça donne une interaction vachement sympa, en tout cas moi j'ai trouvé vachement sympa, parce que vraiment deux styles différents comme ça, avec un Ricochet qui à chaque fois qu'il est coincé réussit à s'en sortir, va nous sortir quelques moves comme il a l'habitude en montant sur les cordes et en mettant une grosse pression permanente sur le Sheamus qui finalement par moment paraît presque étonné de cette résistance aussi intense. Ricochet va même éviter un gros big boot de Sheamus, lui porter un gros diving crossbody à l'extérieur du ring. De retour sur le ring, Sheamus va réussir enfin à porter un bro kick en plein air, comme il aime à faire depuis plusieurs mois, parce que ça, c'est devenu carrément une de ses spécialités, le bro kick en plein air. Hein. Riddle s'en souvient encore. Ricochet va quand même kick out au compte de deux, parce que Ricochet, quoi. Mais finalement, quand même, Sheamus va réussir à porter le deuxième broad kick fatal pour la victoire. 1-2-3, victoire du Celtic Warrior. Papy, 13 minutes 30 de Sheamus versus Ricochet. Est-ce que tu signes ?
Alors, à ton avis, est-ce que je signe ? Il y a un match de Ricochet. À ton avis.
Ricochet va continuer.
Eh ben non, je ne vais pas bâcher Ricochet, parce que je suis sévère, mais j'essaie d'être juste quand je veux être juste, et j'ai trouvé que Ricochet a fait une belle partition ce soir. Justement, j'ai trouvé un peu moins aérien que d'habitude et plus en mode résistant. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais j'ai trouvé qu'il a plus fait WWE dans ce match-là qu'habituellement. Et du coup, moi, ça m'a bien plus plu que juste faire du spot pour du spot. Et du coup, j'ai bien aimé cette confrontation. Voilà, j'ai trouvé le truc. J'ai tout bien aimé dans ce match-là. Franchement, je spoiler alert, je pense que ce sera mon match de la soirée. Il était vraiment tout bon. Le finish, alors moi, je vais peut-être te décevoir un peu, mais je pense qu'en fait, Ricochet se relève du Brock Kick. C'est parce qu'ils sont un peu botchés, en fait, le geste, et il se prend plus un genou qu'un Brock Kick. Et du coup, en bonne intelligence des deux, et ça, j'ai trouvé ça super bien dans ces cas-là, ils se sont arrangés pour refaire un bro kick clean qui, d'ailleurs, le chope particulièrement bien sur la joue, histoire d'avoir un vrai finish beau pour la photo et tout. Et c'est, quand ils ont fait le résumé, ils n'ont pas remonté le premier, ils ont montré directement le deuxième. Donc, je pense que c'est pour la photo qu'ils ont voulu refaire le deuxième. Et ça a été fait de manière naturelle. C'est pas la première fois d'ailleurs que je constate ça dans un match de Sheamus où il y a un petit botch qui est rattrapé directement par les deux gars, parce que ils sont assez intelligents pour refaire ça proprement. Et ça, j'ai trouvé plutôt bien. Moi, ça me dérange pas, ça arrive de se foirer, et dans ces cas-là, c'est bien d'avoir la réflexion rapide nécessaire pour refaire le truc de manière intelligente et pas juste refaire le move tel quel. Donc j'ai trouvé ça très bien de la part des deux à l'issue d'un bon match. Moi, j'étais pleinement satisfait de cette rencontre.
Je suis complètement d'accord avec ton expertise. J'ai trouvé le match très très bon. Et effectivement, le premier bro kick est légèrement botché. Et j'ai trouvé que les deux s'en étaient super bien sortis pour terminer le match et refaire le spot, mais l'amener d'une manière différente qui fasse presque qu'on en oublie que la première tentative avait été un petit peu foireuse. Mais c'est pas grave, parce que ça passait super bien. J'ai trouvé le match super bon. J'ai retrouvé mon Ricky comme je l'aime. Et je l'ai trouvé presque au moment, à certains moments, j'ai retrouvé un Ricochet de la Lucha Underground, et ça ne pouvait que me faire plaisir. Je pense que ça a pu faire plaisir à notre Magic Zygott également. D'ailleurs, j'irai écouter avec curiosité ce qu'il a pu dire du kick-off.
Il l'a regardé.
Et parce qu'on vous dit tout, un peuple de catch-up, mais nous, on n'a pas encore entendu elle doit être en ligne, mais on n'a pas encore entendu la review de Backlash de nos amis Raphaël et Zygote. Mais je vais aller écouter ça avec curiosité. Allez, on
Ouais, juste, alors moi je pense, alors après c'est parce que j'ai pas une mémoire d'éléphant, mais je pense que c'est mon meilleur match de Ricochet depuis qu'il est à la WWE.
Ah, carrément.
Après, je suis pas très bon, j'ai pas une mémoire vraiment bonne des matchs, mais j'ai pas souvenir d'un match comme ça qui m'a autant emballé avec lui.
Bah, en un contre un, je t'avoue que oui. Alors moi, j'ai des souvenirs de très bons matchs avec Aleister Black quand il était en tag team avec Aleister Black. Ils ont livré quelques matchs
Oui.
tag team de très bonne qualité. J'avoue qu'après, en un contre un, bon, il a souvent été mis dans des espèces de purges ou alors dans des matchs très très courts où il n'avait pas beaucoup d'occasion de briller et de faire grand-chose. Je tiens quand même à le signaler. J'ai trouvé que sa promo d'avant-match était très bonne. Son imitation de l'accent irlandais et sa manière de se foutre de la gueule de Sheamus était plutôt sympa, parce qu'en plus, j'ai trouvé que ça avait un bel effet, parce que derrière, Sheamus est particulièrement énervé quand ils arrivent sur le ring, et du coup, ça a donné une belle intensité à ce combat, et qu'on leur file 13 minutes 30 comme ça, bah chapeau, et puis Sheamus, moi, continue à m'épater de semaine en semaine et de mois en mois. Vraiment, c'est le meilleur champion US qu'on ait eu depuis un bail, là, je trouve. On avait eu Riddle, on en a eu plusieurs, on a même eu Lashley hein, qui avait été champion US là, dans l'année passée, etc., avec tout l'avènement du Hurt Business. Mais là, je trouve que Sheamus, là, il est un cran au-dessus, quoi. Il a monté la barre et vraiment, vraiment, il est incroyable, Sheamus, en ce moment, quoi. Pour moi, c'est le. Avec les trois behemoths du Lashley, Strowman et Drew McIntyre. Ben, si on doit sortir un énorme physique actuellement, c'est bien Sheamus, hein, parce qu'il est dans une forme incroyable. Lui qui est plus tout jeune non plus, hein, je crois qu'à 42 ans, il me semble. Ben, franchement, Sheamus, qui continue comme ça, et il va avoir un règne très long. Mais bon, la bonne nouvelle pour votre tonton, c'est quand même que Ricochet est lancé dans une rivalité face au champion US. Donc ça va très certainement se passer à Hell in a Cell. Je pense que la rivalité va certainement se régler là-bas. Et je serais assez intéressé de voir un match en cage entre les deux.
Oui, et puis un peu, tu citais les trois behemoths, mais je citerai aussi Orton en fait.
Oui, on peut ajouter.
Sheamus Orton, Sheamus Orton, là, en ce moment, il bosse pour la nouvelle génération et je trouve qu'ils font ça plutôt bien.
Ouais, je suis d'accord là-dessus. Ouais. Non, mais ça, c'est un truc qui me plaît beaucoup, hein, de toute manière, avec les quadragénaires, là. C'est que là, il y en a plusieurs, dont ceux que tu viens de citer, Orton et Sheamus, qui bossent énormément pour les jeunes ces derniers temps. Et ça, c'est un truc que j'apprécie vraiment beaucoup parce que ce n'est pas tout le temps le cas avec les quadras, presque quinquas des fois, à la WWE, qui aiment bien attirer la lumière à eux, n'est-ce pas, coucou Goldberg. Et là, bah, je trouve que l'attitude de Orton et Sheamus est vraiment honorable. Et ça me fait vraiment plaisir, quoi, de les voir comme ça. Allez, on retrouve Charlotte Flair. Charlotte Flair is Cruella. Charlotte Flair a une tenue quand même assez incroyable cette semaine. Et elle va affronter Asuka, qui veut se venger hein, du pin qu'elle a pris à Backlash. Et on va avoir un match. Alors là, on passait d'un match de 13 minutes 30 entre Sheamus et Ricochet, mesdames et messieurs. Et là, on passe à un match entre Asuka et Charlotte Flair de 16 minutes 45. Waouh, je me dis, waouh, un match où plus le temps avançait dans le match, plus je me dis, mais c'est incroyable, hein, comment ça se fait qu'ils ont voulu donner autant de temps aux filles. Ah mais oui, mais il y a Charlotte dans le match, bien évidemment. Donc Charlotte, avec elle, il n'est pas question de déconner sur le booking et sur le temps passé dans le ring. Alors, entre Asuka et Charlotte, elles se connaissent super bien, hein, ces deux femmes, hein, elles se sont affrontées à maintes reprises. Là, on va avoir droit à un bon match, mais avec quelques trucs un petit peu foirés, dont en particulier un Spanish Fly qui a été, mais alors, un botch fantastique, quoi, où la pauvre Asuka fait une espèce de geste de la tête. Et je pense qu'en fait, Charlotte Flair a dû se tromper dans le call, et c'est elle qui a trop anticipé et qui s'est lancée dans la chute avant que Asuka ait le temps de faire quoi que ce soit. Et du coup, elle fait le Spanish Fly, elle le fait, mais toute seule. Donc c'était un moment un peu marrant et d'ailleurs aujourd'hui sur les réseaux ça a été un bon gif pour la majeure partie des internautes qui a bien fait rigoler tout le monde. Bon, Flair elle va quand même tenter un peu tout, elle va même tenter un sale roll-up en tenant l'élastique de la culotte de notre ami Asuka, mais seulement pour un compte de deux. Asuka finalement va réussir à porter son Ibar, Flair va la contrer, Asuka va réussir à passer l'Asuka Lock. que Flair va retourner en Boston Crab. Finalement, elle va se rapprocher ensuite de la championne Rhea Ripley qui est au commentaire à ce moment-là. Elle fait tomber celle-ci sur la prone. Pendant ce temps-là, ça a permis à Asuka de reprendre ses esprits et elle va finalement contrer une tentative de figure four pour un tombé. 1, 2, 3, victoire! J'ai envie de dire quasi surprise, même si c'est Asuka de la japonaise. Charlotte battue, Charlotte perdue, Charlotte foutue, mon papy.
Oh, je pense pas là. Je pense que avec elle, on est tranquille pour encore un paquet de temps. On parlait des quarantenaires qui sont à la forme. Alors Charlotte est un peu plus jeune. Je crois qu'elle s'est déjà rapprochée. Je me demande si elle a pas 37, 38 maintenant désormais. Mais par contre, elle est dans une forme éblouissante. Alors sincèrement, je t'avoue, je me souviens plus du botch. Ça va pas dû me marquer tant que ça. Je me souviens juste du finish où j'ai trouvé
par contre.
35 ans, tu vois, je la voyais un peu plus âgée que ça. Donc, bravo. Non, c'est Asuka aussi. Parce qu'en fait, je me disais que Asuka aussi, par contre, elle doit approcher des 40 ans. Et elle, je la trouve aussi en super forme. Enfin, les deux étant en super forme. Le meilleur match que j'ai vu d'Asuka depuis bien, bien, bien longtemps. Là, ça faisait bien longtemps qu'elle n'avait pas eu de l'opposition à ce niveau-là. Bien meilleur que ce match contre Ray. Oui.
Asuka aura 40 ans en septembre.
Voilà, donc voilà. Elle est dans les années de ses 40 ans. J'ai confondu les deux. Et j'ai trouvé qu'Asuka c'était bien meilleur que ces matchs qu'elle avait eu contre Rhea Ripley. C'est vraiment une belle opposition. Alors, en même temps, les filles se connaissent vraiment par cœur, je pense. Elles nous ont vraiment fait du classique entre les deux. J'ai trouvé un petit peu dommage que Rhea Ripley ne vende pas le Big Boot qu'elle se prend dans la gueule. Sinon, il y a un problème avec les Big Boot. Big Boot, voilà, ça fait un finish pourri à Backlash. Et puis là, Ripley le prend dans la gueule. Derrière, Charlotte prend un roll-up et Ripley elle se marre alors qu'elle vient de manger un Big Boot, même sans même tenir la joue ni rien. C'est toujours un petit peu dommage quand tu ne vends pas un coup qui vient de t'arriver 2 secondes avant. Mais bon, elle est jeune, elle apprend. Hein. Mais bon, en tout cas, les deux filles, moi j'ai trouvé qu'elles nous avaient régalé là, avec ce long et bon match.
Ah ouais, moi écoute, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon match. Alors effectivement, 2-3 approximations, 1 ou 2 botches, ce Spanish Fly est un petit peu drôle. Oui, on peut dire que Rhea Ripley est un peu green quand tu vois justement bah, les deux nanas de 35 et 40 ans. Rhea Ripley, il faut rappeler, elle a que 24 ans et donc elle est quasiment encore en période d'apprentissage, j'ai envie de dire. Mais c'est plutôt bien là. Il y a un espèce de trio quand même qui déjà pour moi a de très grandes qualités in ring. Le peuple de catch-up connaît mon amour pour Asuka, vraiment qui est vraiment ma catcheuse favorite et c'était bien, ce match m'a surpris parce que je ne m'attendais pas à ce qu'elle gagne, tu vois. Vraiment, pour moi, elle allait gagner le match et après aller faire sa fête à Rhea Ripley. Et pour le coup, et ben, c'est pas ce qui s'est passé. Et Asuka, elle a su profiter de l'occasion et elle a rappelé à tout le monde à quel point elle était opportuniste et qu'elle savait gérer les moments de faiblesse et les moments forts. Et bah voilà, l'exemple typique de la japonaise, du catch de la japonaise, et j'ai trouvé ça super bien. Et vraiment, encore un match, vraiment, un match qui m'a emballé du début à la fin. Et j'aspire à encore plein d'autres matchs. Je sais pas si ça se réglera à Hell in a Cell toute cette histoire. Je sais pas si les bookers ont l'intention de repartir sur du triple menace ou si ça va être une histoire à 3, mais en s'affrontant en 1 contre 1. Bref, je trouve qu'il y a plein de pistes dans cette storyline et moi j'aime bien. Voilà, pour le coup, c'est assez, finalement assez simple. Je me retrouve facilement dans cette affaire puisque j'aime bien les trois catcheuses. Alors, Charlotte Flair, elle est omniprésente, omnipotente, omnisciente, mais eut égard à tout ce palmarès incroyable qu'elle s'est forgé, moi je trouve qu'elle est totalement legit et je ne fais pas partie des grognons. Par rapport à Charlotte, je trouve qu'elle est à sa place et on est bien content dans la division féminine de Raw d'avoir quand même 3 filles de cette qualité-là.
Ah bah, de toute façon, si tu n'avais pas Charlotte, je pense qu'elle manquerait là en ce moment. On l'a vu sur la période où il n'y avait que Asuka qui était tout seul, bah, elle se débattait comme elle pouvait, mais il fallait que tu aies un coup de main de Sasha et Bayley qui viennent du roster bleu pour essayer de remettre un peu Star Power à Raw. Sinon, tu avais vraiment Asuka contre le vide en fait. Et Charlotte, elle fait beaucoup de bien. Moi, ça me choque absolument pas qu'elle soit aussi mise en avant. Enfin, là, on parle d'une fille, alors même si elle a pas autant de vécu que d'autres hommes. Mais enfin, on parle de pompe d'un Roman Reigns côté homme. Enfin, moi, Charlotte, c'est quasiment l'équivalent côté femme. C'est la méga taulière là. Je vois pas comment tu peux passer à côté d'elle et comment tu peux leur reprocher d'être autant mise en avant, quoi.
Oh non, non, et puis là, on n'est pas question de passer à côté d'elle. Il faut qu'on en profite parce que voilà, c'est le genre de moi qui suis le catch depuis tant d'années, tant de décennies. Et j'ai envie de dire que souvent on oublie que bah voilà, ces workers, ils sont là pour un certain temps donné, puis qu'un jour ils seront plus là. Et quand elle ne sera plus là, Charlotte, on se rappellera à quel point elle était une catcheuse incroyable et à quel point elle manquera au roster WWE. Quand elle prendra sa retraite. Donc profitons d'avoir actuellement une Charlotte au sommet de sa forme, d'avoir une Asuka quadragénaire bientôt et elle aussi dans une forme incroyable, et puis l'arrivée d'une jeune de 24 ans qui est pleine de morgue, qui est pleine d'envie, qui, je pense, n'aspire qu'à apprendre. Et moi, je trouve que c'est formidable. Et je me dis, Rhea Ripley pourrait être ma fille et ça me fait plaisir de l'avoir éclatée finalement avec peut-être deux des plus grandes de l'histoire, tout simplement. Parce que de toute manière, Charlotte et Asuka, c'est à la fin de leur carrière, ça sera direct
Hall of
Hall
Fame.
of Fame.
Ouais, je suis d'accord avec toi.
Mais oui, si ces filles-là ne sont pas Hall of Famer, là, je mange mon chapeau. Le chapeau de Sheamus.
Voilà, et il est pas bon.
Et ouais, il ne doit pas s'en faire très très bon. Allez, on retourne backstage très très vite avec John Morrison qui est en coulisses et avec l'intervieweur qui lui demande ce qui s'est passé à WrestleMania Backlash. Morrison, il nous explique bah, qu'il se sent un peu mort à l'intérieur, il se sent tout bizarre, il a l'impression de sentir encore l'odeur des lumberjacks de la veille. Il se dit d'ailleurs que même peut-être qu'il ne se lave pas. Et il dit surtout que le Miz sera certainement plus jamais le même après ça et il va lui dédier son match de ce soir qui se déroule dans la foulée. Ce match, c'est à nouveau Lumberjack match entre John Morrison et Damian Priest. Alors là, les Lumberjacks sont redevenus tout à fait normaux, il n'y a pas de problème, il n'y a plus de zombies. Et ce qui est marrant dans ce genre de Lumberjack match, c'est que tout à coup, on retrouve tout un tas de têtes. Et dans ces têtes, il va y avoir les Viking Raiders, il va y avoir Shelton Benjamin, il va y avoir Cédric Alexander, il va y avoir Nikki Cross, puisque Nikki Cross, qui est la seule femme autour du ring et qui est présente. Il va y avoir T-Bar et Mess aussi qui sont là. Alors, j'ai oublié de le signaler, mais T-Bar et Mess auront fait une micro-promo d'ailleurs pour parler de Bobby Lashley, ce qui m'a assez épaté, ils ont parlé du titre de Bobby Lashley. Alors, bon, ok, d'accord, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Donc,
Oui.
Lumberjack match, vous connaissez un peu la procédure. Quand le face se retrouve hors du ring, il se fait casser la gueule par les heels. Quand le heel se retrouve hors du ring, il se fait casser la gueule par les faces. On va même avoir droit à une Nikki Cross qui va remonter John Morrison sur le ring à la force de ses bras. On va avoir un match pour un Lumberjack match dans des critères assez longs lui aussi, puisqu'on va avoir un match de plus de 12 minutes. Chose quand même assez surprenante. Cédric et Alexander et Shelton Benjamin, ils vont profiter qu'ils sont un peu proches pour se mettre à se battre entre eux. Damien Priest va profiter pendant ce moment-là de porter une superplexe à son adversaire vers l'extérieur et vers tous les bûcherons pour nous faire un gros strike. De retour sur le string, de retour sur le ring, Priest, c'est ma soirée botch hein, ce soir. Hein. Priest va porter un Frankensteiner et enfin son Hit the Light pour une nouvelle victoire. Je me demande même si Damien Priest il n'est pas dans une streak victorieuse depuis son arrivée dans le main roster. Ensuite, sur la rampe, il va nous expliquer qu'il est temps pour lui d'avancer, que dorénavant, Miz et Morrison font partie de son passé. Quel sera son futur? Peut-être qu'il devrait accepter l'Open Challenge et devenir tout simplement le prochain WWE Champion. Alors, les bûcherons, papy, les bûcherons. Qu'est-ce que tu as pensé
Et
de ça?
ça bûche, oui. Bah, en fait, il m'a rêvé, c'est pour ça qu'il faisait une promo. En fait, c'était dans le cadre de l'Open Challenge de Bobby Lashley. Et puis, quasiment, en fait, tout le monde va, enfin, il va énormément avoir de fausses pistes ce soir sur qui sera le challenger, répondra à cet Open Challenge. Je ne révèle pas encore son nom, mais ce spoiler alerte, ce ne sera pas Messi Tibari qui répondra à cet Open Challenge. Et c'est tant mieux d'ailleurs. Ouais, alors tu vois, c'est marrant parce que je suis pas non plus un fan de John Morrison dans le ring, et puis contrairement à Ricochet, là il m'a pas vraiment convaincu d'être un peu plus fan que lui. Je sais pas comment dire, il prépare trop ses coups en fait. Et à chaque fois, je le vois prendre son élan en disant attention, je sens que je vais faire un super flip, attention, je sens que je vais faire un truc. Et du coup, j'ai toujours du mal à accrocher. Il est pas assez naturel dans ses moves, John Morrison. Au moins, il fait tout un tour dehors là, qui était mal joué comme pas possible. La Tozawa qui se retrouve au milieu du ring, on ne sait pas pourquoi. En plus, il y a le titre 24-7. Je me suis dit, tiens, ils vont peut-être faire un jouet là-dessus avec des mecs qui vont débarquer. Et ben non, on s'en fout. D'un coup, il disparaît du ring, on ne sait pas pourquoi. On l'a pas vu sortir. Enfin, je sais pas. Je l'ai trouvé mal booké ce match-là. Et il y a des moments, je me suis dit qu'ils ont dû avoir plein d'idées qu'ils finalement n'ont pas mis en place. En plus, c'était le deuxième en 2 jours de Lumberjack match. Et donc, du coup, l'effet est un peu retombé. Bah, finalement, j'ai préféré les zombies, moi.
D'accord. Bah écoute, moi je suis peut-être un peu moins dur que toi. Moi j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. J'étais content de revoir Nikki Cross. On a revu pas mal de têtes là. Il y avait les Lucha House Party aussi. Voilà, les Viking Raiders. Il y avait pas mal de monde autour du ring. Il y avait plutôt bonne ambiance. Bon, moi je vois pas John Morrison de la même manière que toi. Moi c'est vraiment un catcheur que j'aime beaucoup. Comme j'aime beaucoup Damien Priest aussi, et ben du coup ça donnait un truc pas mal. Je m'attendais vraiment à un match qui allait durer 3-4 minutes en plus, et pour le coup ben, ça a duré. On en a profité pour lancer un peu d'interaction un peu avec tout le monde. D'ailleurs, en coulisses, juste après, entre Shelton Benjamin et Cédric Alexander, ben, l'amour c'est fini, hein, on continue à se taper dessus, puisque Shelton Benjamin est carrément en train d'expliquer qu'il va vouloir aller défier lui aussi Bobby Lashley, le fameux tease. Pour cet Open Challenge, et Cédric Alexander va venir démarrer un brawl avec lui, et en lui expliquant d'ailleurs que la victoire de la semaine dernière a été plutôt chanceuse, et Alexander il va lui faire comprendre que Benjamin est un moins que rien et que c'est pour ça qu'il s'est détourné de lui. Donc vraiment la haine continue entre Alexander et Shelton Benjamin. Donc j'imagine que ça c'est un truc qui va se régler à Hell in a Cell, parce qu'il va bien falloir qu'ils arrêtent à un moment le truc entre ces deux-là. Mais pour le coup ouais, j'ai un plutôt un bon a priori sur ce qui s'est passé, sur ce qui s'est passé dans ce Lumberjack match, et ça me va bien, ça me va bien. C'était pour moi c'était plutôt pas mal cette affaire. Allez, on arrive au main event. Ça y est, on y est, le fameux Open Challenge dont on vous parle depuis 1 heure. Eh ben ça y est, il est là. Bobby Lashley est sur le ring avec MVP et ils attendent tranquillou. Et c'est finalement la musique du New Day qui se déclenche. Oui. Kofi Kingston veut cet Open Challenge. Alors, Kofi Kingston, il a quand même catché il y a 1 heure de ça face à Randy Orton, même si c'était un match court. Et il se retrouve à nouveau dans le ring face au champion de Monday Night Raw. On va avoir un match de 11 minutes et avec un Kofi Kingston qui va s'envoyer comme si c'était rien passé 1 heure avant. Et alors là, vraiment. La résistance du Kofi Kingston, on serait cru en pleine Kofi Mania. C'était fou. Alors là, voilà encore un truc qui m'a surpris, puisque je m'attendais vraiment à un squash et peut-être avec un segment de fin un peu plus long. Mais non, non, on a eu un vrai match de catch qui a duré quasiment 11 minutes, avec un Bobby Lashley qui va être poussé dans ses retranchements, malgré tout, par Kofi Kingston. Lashley va quand même réussir à envoyer Kofi Kingston contre le poteau. Xavier Woods, il va venir sauver son coéquipier, mais qui va débarquer à nouveau? Le bel homme. Et le bel homme, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va se mettre du côté de MVP et il va chouraver la canne du MVP de discretos et frapper Lashley avec. Alors là, c'est pas très très top babyface, hein. Il va frapper Lashley avec la canne de MVP sans être vu par l'arbitre. Et Kingston va en profiter pour porter un roll-up. Peuple de catch-up, vous avez bien entendu, Kofi Kingston va porter un roll-up à Bobby Lashley. 1, 2, 3, victoire! Deuxième victoire de la soirée pour Kofi Kingston. Et le show va se terminer avec McIntyre qui célèbre sur la rampe avec le New Day. Papy, c'était Kofi Mania Isro. Incroyable, Kofi, ce soir.
Incroyable. Alors, petite précision, en fait, au début du match, au moment où Kofi a démarré le match, MVP précise que finalement, ce sera pas un match pour le titre, alors que là, tout le monde s'est à penser parce que il avait même annoncé. Et en fait, il dit non, non, mais en fait, j'ai jamais dit que c'est pour le titre. Hein. Et du coup, ça explique pourquoi Kofi gagne, parce que du coup, si c'était pour le titre, alors là, je te dis pas la méga surprise. Non, non. Et puis, Badrou, il est pas, oui, il donne un coup de canne, mais c'est parce que le même MVP est en train de Il était sur le point de taper Kofi avec la canne. Donc, quelque part, c'est un prêté pour un rendu. Moi, ça ne me choque pas plus que ça, hein, qu'il utilise la canne, la mid-roue. Alors moi, j'étais surpris hein, quand j'ai vu débarquer Kofi parce qu'effectivement, on a eu plein, plein, plein de fausses pistes pendant tout le monde est Nitro. Je pensais que c'était des fausses pistes, mais je pensais pas du tout que ce serait Kofi qui démarquerait. Et puis moi, ça m'a fait quelque chose, quoi. Ça, je me suis dit, oh putain, c'est Kofi. Oh putain, c'est Kofi Mania qui redémarre là. C'est Main Event de Kofi, si on reprenait un petit surnom de Jey Uso. Et puis c'est marrant parce qu'en fait, de le voir en Main Event, et ben, je sais pas, moi en tout cas, la magie a réopéré direct. Et je me suis dit, ah bah, mais il faut pas oublier Kofi, c'est un ancien champion du monde. Et puis, j'avais envie de le voir ce match. Et puis j'ai, bah, du coup, le fait qu'il n'ait pas été squashé, ça m'a fait vraiment plaisir parce que je me suis dit, c'était bien de ne pas oublier ses anciens champions et de lui donner quand même un rôle important à Kofi. Et je ne serais pas étonné qu'il y ait une revanche pour justement occuper un peu Lashley le temps d'arriver à son nouveau match contre McIntyre qui me semble inévitable. Et puis, bah, du coup, j'ai passé un super moment pour cette fin de show avec un Kofi hyper résistant qui gagne la victoire. Ça me faisait plaisir pour lui. Et puis voilà, je ne sais que dire, c'était un bon moment, une bonne fin de show.
Bah écoute, Kofi, non seulement c'est un ancien champion du monde, mais c'est tout simplement un Grand Slam champion, mine de rien. Donc je considère qu'il est legit. Et je trouve que bah, la WWE a bien réussi son coup. Vraiment, grosse surprise quand je le vois débarquer sous le Titantron. Je m'attendais à tout un tas de noms différents pour cet Open Challenge, mais vraiment, Kofi, je m'y attendais pas du tout. Donc du coup, j'ai trouvé ça vachement bien foutu. Je me suis dit, ah ouais, ok, il nous balance Kingston dans l'affaire. Et puis, avec la surprise de la victoire, parce que même si effectivement c'était un open challenge, c'était un non-title match, mais au final, quand même, il réussit une victoire de prestige pour notre ami Kofi Kingston. Et je trouve ça plutôt sympa. Et globalement, une petite réussite, ce main event. Ça n'affaiblit en aucunement Bobby Lashley, puisque l'intervention de Drew McIntyre est là justement. Pour ne pas affaiblir notre champion actuel. Et tout ça, c'était plutôt bien booké. J'ai pas de mal à en dire, loin de là. Dans le ring, c'était très bon. Lashley reste quand même archi impressionnant. Le mec, quel spécimen, quand même, ce Bobby Lashley, quoi. Il est vraiment incroyable, quoi. Quel physique. Et confirmation, finalement, qu'il va être dur à aller chercher, hein. J'ai l'impression qu'il est parti pour un règne qui va durer, quoi. Je le vois pas garder le titre là encore juste quelques semaines et puis tout ça, quoi. Je pense qu'il va être très 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 difficile à aller chercher, notre ami Bobby Lashley. Et
Yep.
c'est ainsi que s'achève ce Monday Night Raw. Et c'est ainsi que commence le moment tant attendu du peuple de catch-up, le top flop note de notre ami Paddy.
Et oui, le top flop note. Alors déjà d'emblée, je veux dire que moi j'ai passé un très bon Raw globalement. Donc c'est j'ai plein d'idées pour le top. J'ai quasiment pas d'idées pour le flop. Je vais le donner. Comme ça, c'est même pas un flop. Si, allez, je vais le donner à Alexa Bliss. Voilà, dans le doute, quand je sais pas, je le file à Alexa Bliss. De toute façon, c'est de l'acharnement à ce niveau-là, mais malheureusement, c'est vraiment la seule personne que quand je la vois apparaître à l'écran, je me dis, je vais me faire chier. Et là, c'est vraiment, je suis en mode rejet total sur Alexa Bliss. J'ai pas trop aimé le Morrison, comment il s'appelle, Priest. Mais c'est juste que j'ai pas trop aimé. Je l'ai quand même regardé. Tandis qu'Alexa Bliss, maintenant, dès que je la vois, j'ai plus envie de les zapper. Donc c'est vraiment pas ce qu'il faut faire avec ce personnage. Le top, là, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup trop de choix. Parce que le Ricochet Sheamus, c'était super. Le Charlotte Asuka était super. Le Main Event, moi, j'ai bien aimé. Il y a aussi le très bon AJ Styles contre Elias. Ça, on l'a dû oublier, mais c'était un super match aussi au début. Donc là, on a eu vraiment du bon catch. Je vais le donner mon top. Je ne vais pas le donner à du catch en fait. Je vais le donner par la WWE qui m'a bien eu avec la surprise Kofi en main event. Là sur le coup, ça m'a fait lever de mon siège. Voilà, on en parle souvent de dire les moments qui te font vraiment vibrer. Et puis là, en fait, moi, voir Kofi débarquer, j'étais surpris. C'est Kofi, mais c'est pas possible. En plus en main event, donc toi, c'est la cerise sur le gâteau. Donc mon top à ce moment-là. Et puis du coup, ma note, ben, je vais donner ma note. Ouais, je sais pas comment faire. Allez, on va se lâcher un peu, vu que c'était une surprise surprise sur la fin. Je vais donner à 3,75, qui est certainement ma meilleure note pour un Raw depuis très longtemps. Mais c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui me plaisent. Division US, division tag team, titre principal, les filles. Là, c'est pas loin du sans faute, en fait, pour moi. Toutes les cases étaient cochées, en tout cas.
Ah ouais, une très belle note. Hein. Ah là là, aucun problème là-dessus. Eh bien écoute, je vais partager ton enthousiasme sur pas mal de choses. Moi, je vais donner mon flop à Alexa Bliss. Encore une fois, comme souvent, ça ne s'adresse pas véritablement à la catcheuse en elle-même, mais ça s'adresse plutôt à toute l'histoire qui nous est contée et tout ce booking que je trouve complètement foiré. Moi, je ne suis pas convaincu qu'Alexa Bliss, ça soit le meilleur des personnages. Je l'ai déjà dit, je considère que son personnage de Goddess était beaucoup plus abouti et que je l'aimais bien tant qu'elle était dans ce partenariat avec le Fiend. Maintenant que le Fiend n'est plus là, je trouve que ça a perdu complètement de son sel et je n'y trouve aucun intérêt. Je n'arrive pas. Voilà, Alexa Bliss, c'est une très jolie femme et c'est le seul truc qui me fait apprécier ces segments. Mais sorti de ça, j'ai vraiment, vraiment aucun intérêt. Je n'arrive pas à m'intéresser à cette histoire. Je trouve que c'est du gâchis ce qui est en train de se passer avec Alexa Bliss en ce moment. Autant Bray Wyatt, voilà, c'est totalement le personnage pour ce qui se passait avec lui. Autant Alexa Bliss, moi, je suis pas du tout convaincu par ça. J'ai envie de la revoir d'une autre manière et j'ai envie de la revoir repackagée et j'espère que ça va arriver vite et qu'ils ne vont pas s'entêter, parce que ça, la WWE, par contre, ils sont capables. Hein, et j'espère que ça ne va pas s'entêter pendant des semaines et des mois avec cette histoire et qu'on va passer un peu à autre chose. Mon top, eh ben, écoute, mon top, j'hésite entre plusieurs trucs, donc c'est bon signe dans un Monday Night Raw. Et je vais le donner aux femmes, puisque finalement j'ai donné mon flop à une femme, et eh ben, je vais faire le backlash, le contre-coup, en donnant mon top aux femmes, et je vais le donner à Asuka et Charlotte pour ce match de quasiment 17 minutes. Et voilà, j'adore ces filles-là, je l'ai dit tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus. Et là, j'ai trouvé vraiment le match de super qualité. Mais je le répète, il y a plein de trucs super sympas dans ce Raw. Le main event, le Sheamus Ricochet, j'aurais pu. Voilà, vous allez peut-être même être étonné, peuple de ketchup, que j'ai pas donné mon top à Ricky la belle vie. Mais pour moi, vraiment, le match des femmes était vraiment au-dessus. C'était vraiment le match de la soirée. Pour moi, c'était le show stealer de la soirée. Et vraiment, si les filles à Monday Night Raw nous sortent des performances comme ça tous les lundis, moi, je valide, j'adhère et je signe à demain. Quand elles veulent, il n'y a pas de problème. Et ma note, ça va être une bonne note aussi. Moi, je vais être dans un 3,5. Voilà, un 3,5, c'est parfait. Ça, je trouve que c'est bien. Je me suis quasiment pas ennuyé du show. Voilà, donc je crois que comme souvent, mon papy, on va un peu à. On nage un peu à contre-courant. Mais moi, je trouve que Monday Night Raw est en nette amélioration ces dernières semaines. Je l'avais signalé déjà la semaine dernière, parce que la semaine dernière, j'avais déjà mis une très bonne note avec Raphaël hier. Et ben, je confirme cette semaine. Et moi, si Raw reste sur ce rythme de croisière pour le vaisseau amiral, et ben, ça me va tout à fait.
Bah moi, c'est ça faisait bien longtemps que je sais pas toi, mais moi en regardant le show, j'ai à un moment j'ai choisi entre faire une pause et regarder la fin, mais j'étais tellement patient de voir le résultat de l'Open Challenge et comment allait finir le show que du coup comment dire, je suis resté scotché à l'écran. Voilà, ça faisait bien bien longtemps que ça m'avait pas fait cet effet-là un Monday Night Raw.
Bah, c'était parfait. Écoutez, nous, à Catch-Up, on est toujours ravis quand on peut vous reviewer, vous débriefer des Monday Night Raw de qualité. Et là, je pense que ça a été le cas. Opération réussie par la WWE. Une opération que nous réussissons également à Catch-Up, c'est la promo de fin de review. Vous n'y échapperez pas, vous n'y couperez pas. Alors, rejoignez la communauté Catch-Up sur le Discord si vous voulez discuter en direct avec tous les chroniqueurs de la team. Bien évidemment, allez vous abonner pour ne manquer aucun épisode sur les plateformes de podcast, Apple Podcast, Podcloud, Spotify, Deezer, Google Podcast. Sur YouTube, actionnez la cloche, laissez des commentaires, laissez des likes. Sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, le site officiel catchup.lepodcast.fr. En ligne, actuellement, vous avez déjà un paquet de choses que je vous conseille d'aller écouter ou réécouter. En l'occurrence, la review de NXT de la semaine dernière, très importante, parce qu'avec le SmackDown de la semaine dernière, nos amis Papy et Ringside ont non seulement reviewé, mais vous ont fait part également du concours de pronos qui va être ouvert et géré de main de maître par l'ignoble Ringside. Donc, ne loupez surtout pas ça. Ça serait quand même bien dommage. Vous avez en ligne également, à l'heure où on parle, je pense, la review de WrestleMania Backlash. Et en ligne, en superstar, je devrais dire, sur la chaîne Catch Up, le You Talk Too Much 10e édition avec Jean Brassard. Jean Brassard, vous pouvez le retrouver également sur jeanbrassard.com ou sur son Cameo www.cameo.com Jean BR. Je vous encourage à aller lui faire un coucou de notre part. Nous sommes dorénavant de grands amis, même si moi, il me déteste. Mais bon, c'est pas grave, je commence à m'habituer.
On déteste Tonton.
Et voilà, tout le monde déteste le tonton. Et c'est comme ça. Et on fait je ferai avec, j'ai le dos large. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour total. Cette semaine à venir, qu'est-ce qu'il y a à venir cette semaine? Bah écoutez, je crois qu'on a pas mal de choses en réserve de toute façon qui vont arriver. Je crois qu'on l'a déjà annoncé la semaine dernière, mais vous avez encore deux You Talk Too Much qui sont déjà dans la boîte et qui vont arriver dans les 2 prochaines semaines. Et surtout, la semaine prochaine, peuple de catch-up, ça y est, on y est, on arrive au bout de notre mois Catch-up Anniversary et vous allez avoir droit à l'édition spéciale de toute la team pour fêter ces 5 ans. Et ça va être quelque chose de grandiose. Alors là, préparez-vous, hein, c'est comme les awards, c'est un truc qui va durer 3 ou 4 heures. Alors préparez le café, la bière, les petits fours, mais là vous allez avoir une édition énorme. Je vous fais un tout petit teasing parce que vous allez avoir toutes les questions qui auront été posées par le public, le peuple de Catch-Up qui a été, comment dire, qu'on a stocké sur notre Discord et qui sera livré le jour de l'édition spéciale, ainsi que tout un tas de sondages que nous avons réalisés sur Twitter pour savoir un peu vos avis sur différentes choses concernant la team, les reviews, le futur, etc., etc., etc. Donc bref, catch-up, l'actualité est chaude bouillante chez nous. Donc ne ratez rien à partir de la semaine prochaine. Ça va être la fête, ça va être le joyeux anniversaire. Catch-up, mon papy.
C'est la fête à la maison, venez nombreux.
Oui, le plus nombreux possible. Faites péter les scores. Faites péter les ratings pour catch up. Allez, c'est ainsi qu'on va se quitter. Mon papy, je te remercie beaucoup d'avoir été mon tag team partner pour ce 1460e Monday Night Raw.
Ben, je te remercie de me l'avoir réservé. Ça faisait un peu de temps que je n'avais pas fait un rouge, je crois, et celui-là était particulièrement fameux. Donc, merci bien à toi, tonton, de me l'avoir gardé au chaud.
Ce fut un plaisir partagé. Eh bien, cher peuple de Catch-Up, c'est ainsi que nous allons vous laisser. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait des bisous. On vous fait des cordes à linge par la face. Salut, papy!
Salut, tonton, et salut à tous!
Et salut, peuple de Catch-Up!
Chaque semaine, nous passons au crible de la team des chroniqueurs de catch-up. Oh là là là, je suis complètement à la ramasse là. Stop, 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 stop. Je recommence tout. Hop, 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 hop. Désolé pour le montage. Je vais le noter dans le.
Il a complètement foiré l'intro.
Voilà, gros botch là.
Vous pouvez le mettre en outro si vous voulez.
Voilà.